Radio Okapi. Le journal Jocelyne Moussaou.
Entrée officielle des troupes de l'armée ougandaise à Boga mardi sous les acclamations de la population locale. Ces déploiements s'inscrivent dans le cadre de l'effectivité des opérations de mutualisation des forces des armées congolaises et ougandaises contre les rebelles des ADF en Ituri. Remise hier par l'UNICEF d'un important lot d'équipements au ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga. Il s'agit d'un appui au programme élargi de vaccination destiné aux différentes aires de santé de la province. Bernardine Kavira, infirmière titulaire du centre de santé Mangoté de Béni, est notre invitée. Cette structure sanitaire couvrant une zone de plus de 10 000 habitants fait face à des sérieux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Bonjour à tous. Des milliers de soldats ougandais sont entrés officiellement à Boga, à 120 km au sud de Bounia en Ituri. C'était aux petites heures de la soirée de mardi, sous les acclamations de la population locale. Selon les FARDC, ces déploiements s'inscrivent dans le cadre de l'effectivité des opérations de mutualisation des forces des armées congolaises et ougandaises contre les rebelles des ADF en Ituri. Pour la société civile locale, la présence de ces troupes crée un espoir de paix parmi la population. Martial Kizabiamongo nous fait le point.
C'est vers 17h30 que les premiers camions transportant des militaires de l'armée ougandaise ont fait leur entrée au centre de Boga, dans les territoires d'Iromo. D'autres troupes étaient à pied en provenance de Bourassi, où ces militaires ougandais ont traversé la rivière Semuliki, qui sépare les deux pays. Des jeunes, des enfants, mais aussi des curieux rangés le long de l'artère principale de Boga ont assisté à cette entrée par des applaudissements. Dans un tweet, le général Muhoozi Kainerugaba, commandant de l'armée de terre en Ouganda, a annoncé que les forces armées de deux pays ont investi l'aérodrome de Boudoudou à Boga depuis hier, ce qui, selon lui, a poussé ces rebelles très actifs dans cette région à la débandade. Des sources sécuritaires au sein de FARDC indiquent que les choix pour les deux forces de s'installer à Boga est stratégique car ces rebelles sont présents dans les environs de la forêt de Tchabi, mais aussi à Zunguluka, Mo'oyo et Kainama. La société civile locale promet d'apporter son soutien aux deux forces pour la réussite de leur mission, celle de mettre fin aux aventures des ADF dans cette région meurtrière. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, nous apprenons que 23 présumés ADF ont été neutralisés par la coalition FARDC et UPDF la nuit de lundi à mardi dernier dans les localités de Makusa et Makumo, à la limite avec le Nord Kivu voisin. Des sources sécuritaires dans la zone rapportent que suite à cette perte énorme, l'ennemi est en débandade dans cette zone. Selon l'administrateur du territoire de Mambasa, il s'observe un retour progressif de la population de Makumo, qui avait fui les incursions répétitives de ces rebelles dans cette entité. Cette autorité territoriale appelle la population à renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre pour décourager l'activisme de ce groupe rebelle dans la région. Restons en Ituri pour vous dire encore que les communautés Bira et Emma de Kangakolo dans les territoires d'Irumu s'engagent à vivre en paix. Elles ont pris cet engagement mardi dernier à Irumu Centre après deux jours de discussions dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du dialogue communautaire initié par la MONUSCO en collaboration avec l'administrateur du territoire d'Irumu. Ces deux peuples qui étaient en conflit peuvent désormais se fréquenter et promouvoir la paix dans leur communauté. Les détails dans ce dossier du jour que nous propose Martial Kiza.
Pendant deux jours, les membres des communautés Bira de Mayalibo et Emma de Kangakolo ont échangé ouvertement sur les problèmes qui les divisent. Il s'agit entre autres des conflits liés aux limites des terres, des accusations de soutien aux groupes armés. Ces deux communautés qui ne se fréquentaient plus se sont demandées mutuellement pardon et ont promis de tourner la page pour regarder ensemble devant elles. Le chef de la chefferie Mobala a manifesté sa satisfaction de voir qu'aujourd'hui il peut passer lui à Irumu Centre sans être inquiété, et c'est là grâce au pardon et la paix retrouvée entre les deux peuples. Le développement est possible lorsqu'il y a la sécurité dans les milieux et parmi les peuples, a déclaré de son côté son homologue de la chefferie de Baïma Diromo. Le chef David a insisté pour que l'amour soit sincère entre ces communautés afin qu'elles contribuent ensemble à la paix et au développement de leur milieu. La MONUSCO souligne que cette attente n'est que le début d'un long processus de dialogue entre les différentes communautés dans les territoires d'Irumu pour discuter des problèmes qui les opposent en vue d'y trouver des solutions. Holistique. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Vous le savez déjà, Kampala doit verser 325 millions de dollars à Kinshasa pour des actes d'agression armée perpétrés par l'Ouganda dans la partie orientale de la RDC il y a un peu plus de 20 ans. Ce verdict est tombé hier après-midi à La Haye, siège de la Cour internationale de justice. La RDC a accusé l'Ouganda d'actes de barbarie lors d'audiences devant la CIJ en avril 2021, évoquant une occupation de 5 ans marquée par des très graves atteintes aux droits de l'homme. Kinshasa réclamait plus de 11 milliards de dollars, un montant que Kampala avait qualifié d'exorbitant. Des détails avec Babel Mpongo.
En rendant son jugement, la Cour internationale de justice, CIJ, a indiqué accorder à la RDC 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes. Ceci comprend les pertes en vies humaines, les viols, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements des civils. Elle accorde également 40 autres millions de dollars pour les dommages causés aux biens et 60 millions pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Pour la juge Joanne Donog, présidente de la CIJ, la réparation accordée à la RDC pour les dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi par les individus et les communautés du fait de la violation par l'Ouganda de ses obligations internationales. L'Ouganda est condamné à payer 325 millions de dollars en 5 versements annuels de 65 millions de dollars à compter de septembre. Pour rappel, les jugements rendus dans les différents États sont contraignants. La Cour règle les différents juridiques qui sont soumis par les États conformément au droit international. Elle donne également des avis consultatifs sur des questions juridiques soumises par des organes et des institutions spécialisées autorisées des Nations Unies.
Ici au pays au sud Kivu, la situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante. À Luihi, dans le territoire de Kabare, plusieurs cas de violations de droits de l'homme sont rapportés au quotidien. Voilà pourquoi la MONUSCO a effectué une mission hier mercredi sur place à Luihi. Objectif, faciliter le dialogue entre les communautés en conflit. Une réunion a été ainsi organisée avec toutes les forces vives de Luihi et qui ont fait part des difficultés que traverse leur entité. Reportage de Cynthia Bachizi Nabizana.
Luihi est un groupement composé de 4 villages situés au nord de Bukavu. Cette entité a été au centre de tous les intérêts de la province du Sud Kivu quand l'or y a été découvert, c'était en 2020. Mais cela n'a pas apporté le développement escompté, bien au contraire. Chiza Bayongwa, président de la société civile locale.
En fait, nous avons beaucoup de problèmes dans le groupement de Luihi, mais ces problèmes se sont aggravés depuis qu'il y a eu l'apparition de l'or dans le groupement de Luihi. On pensait que ça devrait être un appui ou bien un pilier de développement. Il y a les problèmes de justice populaire qui battent record. Les gens sont tués. Certaines personnes sont supposées avoir fait des sorcelleries. D'autres sont supposées être des voleurs et d'autres sont supposées être des violeurs.
Face à tout ce problème, le dialogue social peut être un outil pour construire la paix. Tademi Dero, administrateur de territoire de Kabare.
La rencontre qu'on vient de tenir avec les échanges que nous venons d'avoir, je crois que c'est d'abord une première étape vers une solution. Parce qu'en fait, nous sentons que les problèmes les plus graves concernent la justice populaire.
Et à plusieurs occasions, je n'ai fait que condamner cet acte-là. La plupart des fois, ce sont des innocents qui sont victimes.
De retour de Luihi, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, à travers son chef de bureau de Lubumbashi, a remis hier mercredi un important lot d'équipements au ministre provincial de la Santé. Ces équipements de chaîne de froid sont un appui au programme élargi des vaccinations destiné aussi aux différentes aires de santé de la province. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la chef de section santé au sein de l'UNICEF RDC en séjour à Lubumbashi. Le point avec Jean Ngandou.
Il s'agit des 38 réfrigérateurs solaires dont 13 ont une capacité chacun de 207 litres. Ils sont destinés aux bureaux centraux. Les 25 restants de 52 litres chacun iront au centre de santé. En dehors de ces réfrigérateurs, l'UNICEF a aussi remis 10 congélateurs et 250 glacières. Ces équipements de chaîne de froid ont été acquis aussi avec l'appui du gouvernement japonais et de Global Alliance Vaccination Gavi en sigle, qui est un groupe des bailleurs qui appuie la vaccination dans le monde. Le coût total pour ce premier lot et leur installation est de 438 000 dollars américains. Les équipements ainsi remis constituent une couverture de 52% des aires de santé de toute la province du Haut-Katanga. Prochainement, 320 autres réfrigérateurs seront mis à la disposition du programme élargi de vaccination pour atteindre les 100% de couverture de toutes les 400 aires de santé que compte le Haut-Katanga. Cette chaîne de froid facilitera aussi bien la conservation du vaccin de routine que celui contre la COVID. Le ministre provincial de la Santé a indiqué que c'est un motif de satisfaction pour la province car la vaccination est un pilier de prévention contre les maladies évitables. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, plus de 97% des établissements privés de soins, tout comme les officines pharmaceutiques, fonctionnent dans l'irrégularité. Ce constat a fait suite au diagnostic de l'inspection provinciale de la santé du Nord Kivu en 2021. Pour remédier à cette situation, l'inspection provinciale, organe de contrôle, vient de lancer une campagne de sensibilisation auprès des tenanciers de ces deux catégories de structures. Le but est d'assainir le secteur, dit le médecin inspecteur provincial du Nord Kivu. Reportage, Denis Loukesso.
D'après les médecins inspecteurs provinciaux du Nord Kivu, rien que pour la ville de Goma par exemple, sur les 196 structures sanitaires privées existantes, 6 seulement sont en ordre avec les documents, ce qui représente 96% des structures qui fonctionnent de façon irrégulière. Pour les officines pharmaceutiques en particulier, ils précisent que c'est seulement entre 4 et 6 qui sont en règle sur plus de 100 contrôlés. Docteur Israël Kimboa parlait d'une situation catastrophique qui constitue un manque à gagner pour l'État congolais, d'où la nécessité, selon lui, de la campagne visant à remettre de l'ordre dans le secteur.
Pour un échantillon de 96 formations sanitaires, on a constaté qu'il y a 99% de ces structures qui n'ont pas d'autorisation d'ouverture, ce qui avait constitué un manque à gagner de plus de 200 000 dollars auprès de l'État congolais. En plus de cela, il y avait certaines structures qui n'ont que des autorisations provinciales dépassées et d'autres par ailleurs ne détenaient que des documents de l'environnement. Ce sont des éléments qui nous ont poussés de voir de quelle manière on peut assainir les secteurs.
Un moratoire de 3 mois est accordé à ces structures pour se conformer, a-t-il dit. Goma, Denis Louquet sur Radio Kapi.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, depuis que le pont Rutshuruku s'est trouvant sur la RN32 reliant la commune rurale de Kalima de Kindu à Shabunda dans le sud Kivu est coupé, rien n'est fait jusqu'à présent. Ce pont s'est effondré à la suite d'une forte pluie dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier. Cette coupure crée à ce jour une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des produits manufacturés dans la zone. Le bourgmestre de cette commune rural en séjour à Kindu sollicite une intervention urgente de l'autorité provinciale pour sauver la vie des populations de cette partie du territoire de Pangui. On écoute Kiko Bia Filemon au micro de Florence Kiza.
Il y a les ponts de la rivière Uchulukulu emportés et la route est coupée entre la commune et l'aéroport de Kinkungwa situé à 12 km de la commune. Alors il y a de grandes difficultés pour la population. Il n'y a pas moyen de traverser puisque pour les opérateurs économiques, les marchandises sont toujours transportées à bord des véhicules. Maintenant, il n'y a pas moyen d'aller avec le véhicule à l'aéroport. Il faudra seulement qu'on cherche les moyens pour faire traverser les marchandises à bord des motos. Et c'est une difficulté énorme. Cette situation aussi cause de la hausse des prix très élevés des produits agricoles et manufacturés. On a même quadruplé les prix par rapport à cette situation, puisque la quantité de marchandises et des opérateurs économiques gardés encore par eux est toujours là en petite quantité et la population est énorme dans mon entité de Kalima.
Ici à Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a rendu hommage hier mercredi aux 25 victimes du drame du 2 février dernier à Matadi Kibala dans la commune de Mongafula. D'abord sur le lieu du drame où leurs photos et noms sont affichés, ensuite à travers une messe des suffrages qu'il a dites non loin de là à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Plusieurs fidèles, des membres des familles des victimes et des personnalités y ont pris part, notamment Mgr Donatien Cholet et l'opposant Martin Fayoulou. C'est un reportage de Jean-Francis Mouya.
Dans son homélie, le cardinal a salué la mémoire des illustres disparus. Il exprime sa compassion aux familles en deuil. Il invite les autorités à se questionner chacune sur sa part de responsabilité.
Il est vrai que tout homme est mortel, mais la mort des êtres chers, dans des circonstances aussi inhabituelles et choquantes, ne pouvait-on pas éviter cet accident? Quelles autorités politico-administratives? Comment avez-vous laissé un marché s'installer sur la voie publique et à un endroit à très haut risque?
Fridolin Ambongo salue la décision ordonnant la fermeture de ce marché. Il invite les dirigeants à faire de même pour d'autres se trouvant également à des endroits à haut risque.
Qu'attendons-nous pour fermer tous ces marchés qui demain nous amèneront encore des morts?
Le pape François a également compati avec la RDC. La lettre en provenance du Vatican a été lue au cours de cette messe. Suivez un extrait.
Le pape François implore les Pères Tout-Puissants afin qu'il accorde la paix éternelle à ceux qui sont décédés.
Le cardinal invite les autorités et la population à se servir de cet accident comme alerte et invite cette dernière au respect de la loi.
Actualité internationale.
Le premier ministre libyen victime d'une tentative d'assassinat. Les assaillants ont tiré sur sa voiture ce jeudi, mais il en est sorti indemne selon son entourage. L'incident s'est produit alors que le chef du gouvernement libyen regagnait son domicile. Ces assaillants n'ont pas pu être identifiés. Le Canada, dont le centre de la capitale Ottawa est occupé depuis presque deux semaines par des routiers et leurs sympathisants opposés aux mesures sanitaires, subit depuis lundi soir la fermeture du principal lien routier avec les États-Unis d'Amérique. Des dizaines de camionnettes ainsi que des poids lourds bloquent le pont ambassadeur entre les villes de Windsor et de Détroit. Il s'agit du principal point d'échange entre les économies canado-américaines très interrelées. Reliés où transitent chaque jour 25% des marchandises.
L'invité.
Le centre de santé de Mangoté, implanté dans la commune Bungulu, dans la ville de Beni, couvre une zone de plus de 10 000 habitants. Malheureusement, cette structure de santé fait face à des sérieux problèmes, dont celui d'approvisionnement en eau potable. Comment y faire face? Madame Bernardine Cavira, qui en est la responsable et qui est notre invitée, nous en parle dans cet entretien avec Marc Maroufimbo.
Madame Bernardine Cavira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'infirmière titulaire du centre de santé Mangoté, ici en ville de Beni. Depuis des années maintenant, votre structure sanitaire souffre de problèmes d'approvisionnement en eau potable. Comment expliquez-vous cette situation?
La situation date de le début de la création de cette structure. Parce que la structure a commencé à fonctionner le 8 janvier 2020. Donc, durant toute cette période-là, nous n'avons pas d'eau ici dans la structure. Mais nous disposons des tanks de 2000 litres qui nous avaient été offerts par les CICR lors de la construction de la latrine. C'est de cette eau-là que nous pouvons nous aider pour faire la lessive de certains habits pour les infirmiers, les tenues et autres choses. Mais l'eau potable n'est pas disponible dans la structure. Alors, il y a notre partenaire CICR qui a construit les bornes fontaines dans le quartier Mambango. À construire ça, il nous disait qu'il pourrait amener au moins l'eau jusqu'ici au niveau du centre de santé. Mais après la construction, nous avons constaté que les bornes fontaines ont été inaugurées ça que l'eau puisse arriver où c'est ici, au niveau de notre structure. La solution que nous pouvons envisager à ces problèmes est toujours de laisser notre demande chez les partenaires qui peuvent voir ces mêmes problèmes que nous, de nous venir en aide pour que l'eau puisse arriver au niveau de la structure. Parce que nous-mêmes, dans notre capacité, nous ne pouvons rien faire.
Mais à vrai dire, quelles sont les vraies raisons valables qui font que cette structure sanitaire manque d'eau potable?
Les raisons valables, elles sont multiples parce que, vous savez, d'ailleurs, c'est depuis longtemps que le quartier Mambango n'avait pas d'eau. C'est grâce à certaines interventions de la communauté à réclamer que vraiment à Mambango nous souffrons. D'ailleurs, durant la période de l'épidémie à Ebola, c'est à cette période-là qu'on a vu qu'il fallait qu'on puisse amener de l'eau. Mais nous, ici au centre, s'il y a une épidémie qui peut récidiver, nous ne savons pas comment nous pouvons nous tenir devant cette épidémie pendant que nous n'avons pas de l'eau dans la structure. Or, le lavage des mains, c'est avec de l'eau. C'est la première mesure sur laquelle on peut recourir pour éviter cette épidémie.
Madame Bernardine, sans eau potable dans votre structure, comment avez-vous vécu ici avec les patients la période de la maladie à virus Ebola ainsi que la pandémie à COVID-19?
C'était catastrophe parce que on se servait souvent des gels, des effectats et les pédolas que les tangla recevaient durant cette période. Mais quand il n'y avait pas de pluie, c'était vraiment catastrophe parce que on s'approvisionne au moins en 3 km de la structure pour qu'on puisse retrouver une source. Et là, on peut arriver pendant qu'il y a plein de mamans qui attendent l'eau. Maintenant, pour nous servir, nous, les gens du centre de santé, ça devient un peu compliqué.
Est-ce qu'y a-t-il de démarches amorcées dans ces sens avec les autorités locales afin que votre structure bénéficie de l'eau potable?
Nous sommes en train de toquer partout par là où il y a les gens qui peuvent venir en aide. Bon, s'il peut y avoir quelqu'un qui a aussi le bon cœur de venir nous amener de l'eau, sinon ça sera bon. Mais quant à nous, jusque-là, ce ne sont que des démarches pour retrouver quelqu'un qui peut nous aider. Mais nous, dans notre propre capacité, nous n'avons rien comme moyen pour faire arriver l'eau ici au niveau du centre de santé.
Alors, madame, on peut avoir une idée sur la couverture sanitaire de votre structure?
Nous pouvons parler à titre des populations totales, c'est une affaire de 10 553 que nous couvrons. Et avec ces 10 553, les recevoirs ici au niveau du centre de santé, ça, vous voyez ce que ça peut arriver après.
Madame Bernardine Kavira, je rappelle que vous êtes l'infirmière titulaire du centre de santé Mangoté, ici en ville de Béni. Nous vous disons merci.
Ok, merci aussi pour cette visite.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.